Un excellent sabbat à vous tous. Nous approchons de la superbe fête annuelle des tabernacles. Le titre de mon message aujourd'hui, la fête des tabernacles, l'ombre d'un nouveau monde heureux. Vous savez, Dieu veut que nous comprenions son plan, et de plus en plus. Même si ça fait plusieurs années que nous sommes dans l'Église, nous avons toujours à approfondir ce qu'est vraiment le plan de Dieu et à en être imbu. La bonne nouvelle des choses à venir et les bonnes choses à venir. Et quand nous allons à la fête des tabernacles, ce qui est un commandement, c'est que justement ça nous donne un avant-goût de ce que sera le monde une fois que le Christ sera revenu. Un monde paisible, en harmonie. Nous ne sommes pas parfaits à la fête, mais nous vivons en harmonie et tout le monde fait sa part. Et il y a une belle atmosphère que Dieu bénit. On apprend ses voies. Et ce sera comme ça dans le monde de demain. Allez dans Hébreux chapitre 6. Hébreux chapitre 6. Nous allons lire à partir du verset 4 et 5. Ici, c'est un avertissement pour ceux qui font partie de l'Église, vous et moi. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, à qui il a été donné de comprendre, qui ont goûté le don céleste. C'est quoi le don céleste? C'est qui ont reçu le Saint-Esprit de Dieu pour être capables de comprendre, qui ont été baptisés, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu, qui l'ont compris, qui s'en ont réjoui, et les puissances du siècle à venir, qui ont vu les choses qui viennent bientôt. Alors, on goûte d'avance quand on entrevoit ces choses-là, quand on les comprend. Et regardez le verset 6. Et qui sont tombés, donc il est possible de tomber, même une fois qu'on a été appelé, même une fois qu'on a été baptisé, même une fois qu'on est dans l'Église depuis de nombreuses années. Personne n'est à l'abri. Que celui qui pense être debout prenne garde de tomber. L'Écriture est très claire là-dessus. Et qui sont tombés soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Voyez-vous, c'est toujours possible de tomber. Et c'est pour ça que chaque année, même si ça fait longtemps qu'on est dans l'Église, on doit considérer les fêtes comme très importantes et les vivre de tout notre cœur. Psaume 34. Psaume 34, s'il vous plaît. Psaume 34, et nous allons lire les versets 9 et 10. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Et c'est vrai que Dieu a été bon, qu'il est bon envers nous de nous faire connaître ses fêtes, son plan, qu'on puisse y goûter et de nous donner par là un avant-goût de ce qui s'en vient. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Et quand on célèbre ses fêtes de tout cœur, ses sabbats, c'est qu'on cherche en lui notre refuge. Et Dieu réagit en conséquence. Il accorde des bénédictions. Il nous donne le courage de passer à travers nos épreuves, à travers les pièges qui nous sont tendus. Craignez l'Éternel, vous, ses saints. Regardez après ce qui est mentionné. Car rien ne manque à ceux qui le craignent. Rien ne manque de ce qui est important pour notre bien-être spirituel et pour notre avenir. C'est ça. Parce que certains peuvent dire, moi, je manque de telle chose, je manque de santé, j'aimerais avoir plus d'argent, ou tout ça. On peut dire, c'est pas vrai. Non, c'est vrai. Et rien ne nous manque de ce qui est important pour que nous arrivions au but. Parce que Dieu veut nous donner la vie éternelle. C'est ça ici. Craignez l'Éternel, vous, ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. C'est-à-dire de ce qui est important pour notre bien-être et pour nous permettre d'arriver au but. On est appelé pour comprendre son plan. Et c'est merveilleux de pouvoir le faire. Et nos besoins sont comblés. Dieu comble les besoins qu'on a pour faire la route. Des fois, ça va être d'un côté, des fois, ça va être de l'autre, mais Dieu nous donne ce qu'on a besoin. Et ça nous aide à nous attacher à lui, de célébrer ses sabbats, ses fêtes, de lui dire merci de tout ce qu'il fait pour nous et de ce qu'il fait en préparation pour la libération prochaine du monde qu'on va célébrer à la fête des tabernacles. On s'attache à lui de plus en plus. Et quand on va à la fête des tabernacles, ça nous permet de revivre chaque année l'expérience de ce que ce sera dans le royaume de Dieu pour l'ensemble de l'humanité. Parce qu'on n'est pas appelé, nous, maintenant, pour nous-mêmes. On est appelé pour préparer le retour de Christ et pour servir les êtres humains une fois que le Christ sera revenu, pour les enseigner les choses que nous aurons apprises. Proverbe 9. Allez un petit peu plus loin dans Proverbe. Chapitre 9. On va lire les versets 9 et 10. « Donne au sage et il deviendra plus sage. » Et le sage, celui qui craint Dieu, il est au sabbat. Il étudie chaque jour. Il prie chaque jour. Il va aux fêtes lorsqu'il est capable, lorsqu'il a la santé pour y aller et tout ça. Et il reçoit parce qu'il se montre sage. Il veut être proche de Dieu. Donne au sage et il deviendra plus sage. Instruit le juste et il augmentera son savoir. C'est ce qui se passe aux fêtes de Dieu. Verset 10. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu, le respect de celui qui nous montre la voie à suivre. Et la science des saints, c'est l'intelligence. C'est Dieu qui nous donne de comprendre lorsqu'on se met en marche pour lui obéir. On voit, voyez-vous, que l'être humain a été créé pour établir une relation avec Dieu lorsqu'il est appelé. Et pour le moment, Dieu appelle seulement un petit troupeau. Et ce petit troupeau-là, dont vous faites partie et moi aussi, on est capable de créer une relation avec le gouverneur de l'univers et avec son fils Jésus-Christ. D'où l'effet spécial des fêtes que Dieu a décrétées pour ses enfants. Deutéronome 4. Deutéronome chapitre 4. Et nous allons lire les versets 4 à 6. Qu'est-ce qui est dit ici? Verset 4. « Et vous, qui vous êtes attachés à l'Éternel, vous, on doit avoir un attachement vers Dieu, votre Dieu. Vous êtes aujourd'hui tous vivants. » Et Dieu peut nous dire la même chose. « Vous qui vous êtes attachés à l'Éternel, vous êtes encore vivants. Il vous a gardé jusqu'à aujourd'hui. Et il vous donne ses fêtes pour vous préparer à des choses extraordinaires. « Voici, je vous ai enseigné des lois et des ordonnances. » Comme l'Éternel, mon Dieu, me l'a commandé, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Et nous, en tant que ministres de Dieu, nous vous enseignons les lois de Dieu, afin que vous les mettiez en pratique pour que vous entriez en possession du royaume qui approche. Verset 6. Vous les observerez et vous les mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront « Cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. » Dieu nous donne sa sagesse à travers la mise en pratique de ses lois et à travers son esprit qu'il nous donne à ce moment-là. Il nous donne la compréhension. Et il est toujours prêt à nous aider, d'ailleurs. Et quand il nous arrive d'avoir des creux de vague, c'est vers lui qu'il faut se tourner. Et vous allez voir tantôt dans d'autres versets, il est toujours, toujours prêt à nous aider si on a un cœur pour lui obéir. Verset 8 du même chapitre. « Et quelle est la grande nation qui a des lois et des ordonnances justes, comme toute cette loi que je vous enseigne aujourd'hui? » Mais regardez le verset 9, l'avertissement. « Seulement, prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues et qu'elles ne sortent de ton cœur. » Voyez-vous, c'est pour ça qu'il nous faut continuellement renouveler notre étude de Bible, revivre les fêtes de Dieu pour ne pas que ça sorte de notre cœur. Si ça sort de notre cœur, ça sort de notre vision et on s'éloigne de Dieu et Dieu enlève la barrière de protection qui était autour de nous. Il faut être vigilant pour fuir le mal et aussi enseigner nos enfants. Ça, c'est le sens des jours saints pour le peuple saint de Dieu. Allez dans Romains 8, verset 28. Je vous donne une série de versets aujourd'hui. Vous pouvez les noter. Vous pourrez refaire une étude à partir de ça. Et vous allez voir le fil de trame du sermon d'aujourd'hui qui concerne la joie que nous apporte la fête. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Le but de notre appel et le but de la fête des tabernacles. Romains 8, verset 28. Nous savons, du reste, que toutes choses, quelles que soient les choses que nous ayons à vivre, nous savons, du reste, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Et ceux qui aiment Dieu, ce sont ceux qui, même s'ils ne sont pas parfaits, s'appliquent à vivre selon ses lois. Ils manquent leur coup des fois, ils demandent pardon, ils recommencent. Mais ils s'appliquent à vivre selon ses lois. Ça, c'est ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Donc, toute chose concourt au bien de ceux que Dieu appelle. Et il se sert, comme je vous ai expliqué dernièrement, de tout ce que nous vivons pour nous préparer aux responsabilités qu'on aura dans le monde à venir. Dieu a un but pour chacun. Et il n'y a rien qui pourra empêcher Dieu de réaliser son plan. Il n'y a rien d'impossible pour lui. Et il n'y a rien d'impossible à nous si nous sommes avec lui. Parce que si nous sommes avec lui, Dieu est avec nous. Et c'est lui qui fait qu'on peut réussir. Genèse 18. Genèse 18, on va voir un exemple. Genèse chapitre 18, c'est Abraham ici. Quand Dieu lui a promis d'avoir un fils, alors qu'il était avancé en âge. Genèse 18, et regardez le verset 13 et 14. L'Éternel dit à Abraham, « Pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, « Est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? » Ils étaient vieux tous les deux. Et regardez après ce que Dieu inspire d'écrire. « Y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel? » Y a-t-il quelque chose qui est impossible à Dieu? Au temps fixé, c'est Dieu qui parle, « Je reviendrai vers toi », il s'adresse à Abraham, à cette même époque, « et Sarah aura un fils ». Et c'est exactement ce qui s'est passé. Dieu avait dit que ça allait arriver, et c'est arrivé. On peut avoir une confiance absolue, une assurance absolue dans ce que Dieu dit. Abraham, notre père dans la foi, a fait l'expérience de façon extraordinaire. Jérémie 32. Parfois, il arrive des situations où on se demande où est-ce que ce qu'on vit va nous mener. En autant qu'on s'applique à ce moment-là à plaire à Dieu, à nous purifier, ça va nous mener pour notre bien à la bonne place, là où ça doit nous mener. Jérémie, chapitre 32. Ici, dans le contexte, Dieu avait dit à Jérémie, « Achète-toi un champ. » Jérémie ne comprenait pas pourquoi Dieu lui demandait de s'acheter un champ. Il y avait des questions à poser. Et regardez Jérémie 32, verset 17. Jérémie 32, verset 17. Qu'est-ce que Jérémie dit à Dieu dans sa prière? « Seigneur éternel, voici, tu as fait les cieux et la terre par ta grande puissance et par ton bras étendu. Rien n'est étonnant de ta part. » Alors, il était surpris de se faire demander ça. Il dit, « Je ne comprends pas, mais je sais qu'il n'y a rien d'étonnant de ta part. » Autrement dit, il n'y a rien d'impossible pour toi. Et après, on voit dans le contexte qu'il a acheté le champ en question et ça avait une signification particulière. Il n'y a rien de trop difficile pour Dieu. Et ce Dieu-là, c'est le Dieu de la fête des tabernacles qui vous a invité et qui m'a invité à être présent. Et un jour, nous allons vivre la fête des tabernacles dans sa réalisation intensément en tant que membre né de Dieu, dans la famille de Dieu, vivant à jamais avec lui. Comprenez-vous pourquoi il faut que Dieu soit en premier dans notre vie maintenant? Et si on va à la fête de Dieu, comprenez-vous pourquoi qu'à la fête de Dieu, même s'il y a plein d'activités intéressantes autour et tout ça, il faut que Dieu reste le premier? C'est sa fête. Comprenez-vous que Dieu doit être le premier à sa fête? Comme le restant de l'année, mais on ne doit pas négliger la prière, l'étude à la fête. C'est des priorités. Après, on peut s'amuser, aller manger avec les autres, aller visiter des beaux endroits, tout ça. Mais Dieu doit rester en premier à la fête. Ça nous est tous arrivé, je pense, dans le passé, quand on est arrivé à l'Église, de ne pas avoir les bonnes priorités à la fête. Ou même de trop manger. Moi, je me rappelle d'avoir trop mangé. On avait, bien sûr, plus d'abondance parce qu'on avait mis de côté notre deuxième dîme. Et parfois, on s'achetait des choses très bonnes, mais on mangeait trop. On a changé depuis ce temps-là. On peut prendre un bon repas, raisonnablement, mais on n'est pas là par gloutonnerie ou pour manger trop au point d'être malade ou d'être mal à l'aise. Je me rappelle, c'est Monsieur Winnet, il avait expliqué que, je pense, dans sa première fête, justement, il avait plus d'argent que d'habitude, puis il s'était mis à manger des steaks chaque jour parce qu'il aime beaucoup le steak. Mais je pense au bout de 3 ou 4 jours, il avait été malade. Je me demande s'il avait été capable de finir la fête. C'était beaucoup trop. Et c'était, dans le fond, une transgression de la loi. Il l'a compris après, mais on doit apprendre à travers les expériences qu'on fait. Mais Dieu doit être le premier à la fête et on doit faire les choses de bonne façon. Matthieu chapitre 19. Dieu doit toujours être en premier, que ce soit chaque jour de la semaine chez nous, ou que ce soit lors des fêtes de Dieu, et en particulier à la fête des tabernacles, alors qu'on est dans un bel environnement, qu'on a plus de temps que d'habitude. Ici, voyez-vous, c'est le jeune homme riche. À Matthieu 19, versets 24 à 26. Et le jeune homme ici ne voulait pas abandonner ses possessions temporaires. Possessions temporaires. Matthieu 19, versets 24 à 26. On va le lire, ça vaut la peine. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Voyez-vous, encore là, c'est une question de priorité. Quelqu'un peut être riche dans l'Église et que ses richesses ne soient pas une priorité pour lui. Abraham était riche. Job était très riche à un moment donné. Mais ce n'était pas une priorité pour lui. Dieu ne leur a jamais reproché ça. Les disciples ayant entendu cela furent très étonnés. Et ils dirent, qui peut donc être sauvé si c'est si difficile que ça? Regardez bien, regardez la réponse de Jésus. Jésus les regarda et leur dit, aux hommes, cela est impossible. C'est absolument impossible que vous et moi, on soit sauvés par nous-mêmes. Mais à Dieu, tout est possible. Voilà la réponse de tous nos problèmes, de toutes nos inquiétudes, de tous nos soucis, de tous les risques de ralenti qui peuvent nous arriver. C'est vers Dieu qu'on doit se tourner pour être capable d'aller plus loin. Vous savez, vous n'avez pas le choix d'être né là où vous êtes né. Vous n'avez pas le choix de votre nationalité. Vous n'avez pas le choix de votre couleur. Vous n'avez pas le choix de votre état de richesse ou de pauvreté. Pas du tout. Mais maintenant, vous et moi, on a un choix extraordinaire par rapport à l'avenir, par rapport au futur, par rapport à la vie éternelle que Dieu a en réserve pour ceux qui l'appellent. Dans le monde de demain, vous ne serez jamais ennuyé, vous ne serez jamais inquiet, vous n'aurez jamais peur, vous ne serez jamais fatigué, vous ne serez jamais malade. Vous serez devenus des êtres spirituels que Dieu va bénir pour l'éternité. Ça, c'est formidable. Et c'est tout un honneur que d'être choisi et de connaître le vrai but de la vie et pourquoi nous avons été appelés. Pour changer, pour soutenir l'œuvre, pour aider nos frères et nos sœurs et pour former ensemble une famille maintenant. Nous, on est limités. On est limités actuellement. Dans l'état des choses actuelles, on ne peut vraiment pas saisir la grandeur de Dieu, vous savez. Et j'aime à dire des fois que même durant toute l'éternité, on n'aura pas assez de temps pour découvrir qui est vraiment Dieu dans toute sa dimension. Tellement Dieu est grand, tellement Dieu est élevé au-dessus de nous. Et on n'arrive pas à imaginer toute la beauté de ce qui nous attend. On n'arrive pas à imaginer même la puissance des anges. On sait qu'ils sont très puissants, mais comment? Jusqu'où? On ne sait pas encore. On verra plus tard. 1 Corinthiens 2. 1 Corinthiens chapitre 2. On va lire le verset 9. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues. Ce que Dieu nous a révélé par ses fêtes, le monde à venir, le retour de Christ, le changement de cœur des êtres humains à ce moment-là, un monde heureux. On n'avait pas imaginé ça de nous-mêmes, ça nous a été donné. Ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. On n'a pas pu inventer ça. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui aiment Dieu, ceux qui l'aiment, ceux qui mettent en pratique ses lois. Verset 10. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit, le Saint-Esprit, sonde tout, même les profondeurs de Dieu, et il nous les révèle. Qui donc parmi les hommes connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Verset 12. Or nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce, et celles qu'il veut nous donner dans le monde de demain. On les connaît par son esprit, par sa grâce, c'est-à-dire par sa miséricorde, par sa grande patience envers nous. Et c'est pour ça qu'il nous faut aller à la fête des tabernacles en arrivant, en ayant dans l'esprit le fait que je veux apprendre plus qu'avant, même si ça fait 30 ans ou 40 ans qu'on est dans l'Église. Et ceux qui le font, ils apprennent plus qu'avant et ils s'approchent de Dieu. C'est ça la fête des tabernacles. Versets 13 et 14. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel, pour les choses spirituelles. Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Et ça, c'est vous et moi avant. On ne connaissait pas Dieu. Quelqu'un nous aurait parlé de ces choses-là, on aurait dit « c'est insensé, c'est bizarre, c'est anormal, vous avez perdu la raison ». Pourquoi? Parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Et il faut avoir le Saint-Esprit de Dieu pour en juger, pour comprendre. Alors, il faut en même temps avoir beaucoup de respect pour le reste de l'humanité qui ne comprend pas encore. On ne peut pas les accuser. Leur temps n'est pas venu. Dieu a un temps pour appeler chaque partie de l'humanité. Maintenant, je reviens un peu à mon titre de sermon. Les fêtes de Dieu, et en particulier la fête des tabernacles, c'est l'ombre des choses à venir. Quand on célèbre la fête, c'est bon, c'est agréable, on est en dehors de chez nous, on a des messages spirituels nourrissants, mais c'est l'ombre de ce qui s'en vient dans quelques années, quand le Christ sera là et que toute la terre sera comme ça, en paix, dans l'abondance, dans l'harmonie, de plus en plus. Et c'est ce qu'on apprend à la fête. C'est l'ombre des choses à venir. Ésaïe 9, verset 6. Ésaïe, chapitre 9. Quand on met ensemble tous ces versets-là, on commence à avoir une image plus claire du merveilleux monde de demain. Ésaïe, chapitre 9, et le verset 6. Donnez à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. C'est ce qui va se passer dans le monde de demain. L'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours, ce sera éternel. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. C'est ce que nous apprenons et que nous pratiquons. Dans le fond, ce qu'on apprend et ce qu'on pratique, vous savez comment ça peut se résumer? Gouvernement de Dieu. Ce qu'on apprend, c'est d'obéir à Dieu. On obéit à une autorité gouvernementale, le gouverneur suprême de l'univers est Jésus-Christ. Et quand on va à la fête, il y a une dynamique qui s'établit à la fête pour que tout fonctionne bien. Chacun fait son travail de bon cœur, généreusement, et tout fonctionne bien. Et ça demande énormément de préparation et ça demande énormément de personnes qui s'impliquent pour que tout réussisse. Mais tout se passe tellement bien, et je le sais par expérience, ça fait des années que je travaille comme coordinateur, quand les gens viennent ensemble, les membres de l'Église, pour travailler de cette façon-là, ça va tellement bien. Ça va tellement bien. C'est pas parfait. Mais tout roule dans l'huile et ça représente le gouvernement de Dieu qui va agir dans le monde à venir et les gens vont pouvoir y goûter. Pour le moment, dans l'état actuel où nous sommes, je ne vous apprends rien, nous sommes une vapeur. Nous sommes temporaires, nous sommes des êtres temporaires, même biodégradables. C'est comme ça qu'on a été fait, on a une limite de temps, meilleur avant. Et bon, on sait, il faut en prendre conscience, parce que c'est comme ça qu'on a été fait. Dieu l'a voulu comme ça, parce qu'il ne nous donne pas la vie éternelle maintenant. Il va nous donner la vie éternelle quand on aura prouvé à Dieu qu'on veut vraiment lui appartenir et qu'on est prêt à lutter jusqu'au bout pour ça. 1 Corinthiens, chapitre 15. 1 Corinthiens, chapitre 15. Vous savez, c'est le chapitre de la résurrection. 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 42 à 44. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, c'est ce que nous sommes maintenant. Il ressuscite incorruptible. Là, il parle de la première résurrection des serviteurs de Dieu. Quand ils vont ressusciter, ça va être incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé corps naturel, physique, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps naturel, physique, il y a aussi un corps spirituel qui nous sera accordé. Et le corps spirituel, lui, il est immortel. Versets 45 à 47. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant, en parlant du Christ. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. C'est ce qui est naturel. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme, le Christ, est du ciel. Bon, là on voit de quoi il s'agit. Verset 48. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Donc, il dit ça pour qu'on voit que c'est un monde complètement différent. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, comme c'est le cas aujourd'hui, nous porterons, si nous sommes changés, si nous sommes fidèles, aussi l'image de ce qui est céleste. Et ça, ce sera la réalité. Ça, ce sera la substance. Ce sera quelque chose qui va durer éternellement. Nous ne serons plus temporaires à ce moment-là. Dieu va rendre possible ce qui était absolument impossible. C'est le Dieu de l'impossible que nous servons. Il va prendre de faibles êtres humains qui étaient simplement matière et il va en faire, s'ils sont fidèles, des êtres spirituels immortels nés dans sa famille. Et on va à la fête justement pour appliquer le gouvernement de Dieu. Puis le gouverneur de l'univers, lui, il a commencé par nous donner. Il nous a tout donné. Il a donné la création, il nous a donné la vie, il nous a donné son Fils pour payer l'amende de nos fautes, il nous a donné l'appel, et là, il nous donne de voir l'avenir avec enthousiasme parce qu'on pourra y participer pour aider l'humanité à changer. Dieu nous a tout donné. Et nous, on va à la fête pour apprendre à donner. Et vous savez pourquoi la fête fonctionne si bien? C'est parce que tous ceux qui s'impliquent donnent aux autres du temps, de l'attention, du travail, pour que tout fonctionne techniquement, spirituellement, amicalement et tout ça. Et quand on va à la fête, la première chose qu'on fait, et je reviens là-dessus, j'en ai parlé dans d'autres termes tantôt, c'est de se donner nous-mêmes à Dieu, en le mettant en priorité. En étudiant notre Bible le matin, en faisant notre prière le matin, en prenant le temps qu'il faut, ensuite en allant aux assemblées de sabbat, ensuite s'amuser avec les autres et goûter les bonnes journées que Dieu nous donne. Et moi, je vous rappelle quelque chose. Quand vous allez partir pour la fête, laissez tout derrière. Laissez tout derrière. Quand vous allez partir, là, il y aura encore des préoccupations ou des problèmes qui ne seront pas réglés, des situations difficiles que vous allez être en train de vivre et vous pourriez tenter de les amener avec vous et d'y penser durant la fête. Ne faites pas ça. Si vous mettez Dieu en premier, dans les façons de faire que je vous ai dit, de faire vos études, vos prières, encore même davantage peut-être au moment de la fête, de fraterniser avec les autres, de rendre service et tout ça, Dieu va faire en sorte que ces problèmes-là trouvent leur solution au bon moment. Et si vous fermez la porte sur ces problèmes-là et ces inquiétudes-là, Dieu va faire en sorte que vous vous reposiez à sa fête et que vous reveniez plus fort qu'avant, non seulement spirituellement, mais même physiquement. C'est formidable. Ça, c'est les bénédictions de Dieu. C'est pour ça que je vous dis, laissez tout derrière. Je n'ai pas été dans la Bible, mais c'est même marqué dans la Bible que même au temps des récoltes, il nous faut aller à la fête. Même si ça serait le temps de passer la moissonneuse parce que le blé ou le maïs est en bonne condition ou d'autres productions, Dieu dit, vous allez à la fête. Et je vais m'occuper de vos récoltes. Et c'est ce que Dieu fait. J'ai déjà vécu ces choses-là. Je l'ai vu. Quand les gens disent « c'est la fête de Dieu qui est en priorité, même si ma récolte est due pour être cueillie, moi je m'en vais à la fête de Dieu. » Et après ça, Dieu promet qu'il va s'occuper de ça. C'est marqué noir sur blanc dans la Bible. Alors c'est pour ça que je vous dis, en montant à la fête cette année, fermez la porte de ce qu'il y a en arrière. Concentrez-vous à apprendre les voies de Dieu, à fraterniser, puis à être fortifié spirituellement et à servir et à vous faire de nouveaux amis. Pour ceux qui ont la possibilité d'aller sur place au site de fête, faites-vous de nouveaux amis. Allez vers les personnes nouvelles. Il y aura des personnes nouvelles, soit des gens nouveaux dans l'Église ou soit des gens de d'autres églises qui vont être là. On en aura de France, on en aura des États-Unis, on en aura d'autres endroits. Allez vers ces gens-là. Ne restez pas toujours avec les mêmes. Vous savez, je pourrais quasiment vous dire, même dans notre petite église ici, je pourrais quasiment vous dire, quand on va à la fête au Rina, qui va être assis avec qui? Parce que vous êtes des créatures d'habitude, et c'est ça que je veux vous amener à réaliser, de casser la coquille là, pour aller vers les autres. On trouve toujours les mêmes assis à la même table avec les mêmes personnes. On est une famille. On ne doit pas être exclusif avec certains. Allez vers des nouvelles personnes. Vous allez découvrir des amitiés nouvelles. Vous allez apprendre des vécus nouveaux. Si vous ne savez pas quoi dire, vous savez quoi? Dites rien. C'est simple, hein? Mais vous donnez un bon truc. Si vous ne savez pas quoi dire quand vous allez vers une personne nouvelle, commencez par lui demander son nom, d'où elle vient. Commencez par lui parler d'elle, comment elle a connu l'Église et toutes ces choses-là. Vous ne finirez plus. Essayez pas de raconter vos affaires et d'avoir de quoi vendre. Allez vers l'autre pour connaître la personne, faire des liens, faire des choses avec. Ne restez pas toujours avec les mêmes. Allez vers les nouvelles personnes pour aider. Aidez, bien sûr, ceux qui ont besoin. Colossiens 2. Colossiens chapitre 2. Quand vous faites ça, vous augmentez, vous augmentez la dynamique, le dynamisme dans la famille de Dieu. Et les autres qui sont là se sentent accueillis. Moi, je me rappelle la première fois que je suis venu à l'église, il y a des vieux monsieur qui sont venus me rencontrer et qui ont commencé à me parler du royaume de Dieu. Ça m'avait tellement frappé que ça m'avait encouragé. Mais ils étaient venus me voir et je connaissais personne. Et c'est la même chose pour les nouvelles personnes qui viennent. Il faut aller vers eux et leur parler, les accueillir. Colossiens 2, versets 16 et 17. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, ou d'une nouvelle lune, ou des sabbats. Il y a les sabbats de chaque semaine et il y a les sabbats de fête, qui sont l'ombre des choses à venir. Mais le corps de Christ, laissez le corps de Christ vous juger. Que les autres autour ne vous jugent pas là-dessus, parce que les gens autour ne vous comprennent pas. C'est ça que Paul est en train de leur dire ici. Laissez-vous pas juger par les gens autour qui disent que vous observez le sabbat et ces choses-là. Laissez ça de côté. Laissez-vous juger par l'Église, le corps du Christ. C'est l'Église qui enseigne qu'est-ce qu'on doit faire et comment on doit vivre les choses. Alors, il dit que les fêtes sont l'ombre des choses à venir. C'est ça que je vous ai dit tantôt, c'est le thème de mon message. La fête des tabernacles, c'est l'ombre du monde de demain. Parce que l'ombre représente la réalité de ce qui s'en vient. Quand vous voyez l'ombre de quelque chose, c'est parce qu'il y a quelque chose qui est là. Si vous regardez plus loin, vous voyez la chose en question. Tantôt, on était marché, il y avait... Et comme il faisait très chaud, quand on passait sous des arbres, il y avait une belle petite flèche. Et là, on voyait l'ombre, et elle était bonne. Et à côté, on voyait l'arbre. L'ombre est la représentation de ce qu'il y a à côté. Hébreux chapitre 8. Hébreux chapitre 8. Je vous donne toutes ces choses-là pour qu'on se mette dans l'ambiance de la belle fête des tabernacles qui s'en vient. Hébreux chapitre 8. Verset 5. Il célèbre un culte, image et ombre des choses célestes. Ici, il parle du temple qui avait été construit, dont Dieu avait donné les plans avant. Là, il dit, c'est l'ombre des choses célestes. Image et ombre des choses célestes. Comme Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle. Et soin lui fut-il dit, de tout faire d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Alors, ce que Dieu a dans le ciel, le vrai temple, il a donné ce plan-là à Moïse pour qu'il fasse une représentation, l'ombre de ce que c'est. Et la fête des tabernacles, dans ce sens-là, est l'ombre des choses à venir. Et c'est intéressant, on en parlait la semaine passée. Vous savez, il y a certaines choses qui existent sur la terre qui sont, pour ainsi dire, l'ombre de réalité céleste, comme les anges. On parlait de la forme des anges. Il y a certains anges qui ont quatre visages différents. Ils se déplacent d'une certaine façon. Je n'entrerai pas dans les détails. J'ai fait un sermon déjà là-dessus. Mais ces anges-là ont quatre visages. Un visage d'homme sur un côté, un visage de bœuf sur un autre, un visage d'aigle et un visage de lion. On voit ça dans la Bible. C'est dur à imaginer, là. Comme c'est dur à imaginer leur puissance. Mais encore là, dans la création physique, c'est comme l'ombre des choses réelles. La réalité est à un autre niveau. Les animaux ont été créés après les anges. Et c'est pas surprenant que Dieu ait pu prendre certains modèles sur ce qui avait été créé avant pour créer des animaux. Et c'est superbe. Et tout ça se tient. La création de Dieu se tient. C'est vraiment encourageant. Hébreux chapitre 9. Et regardez le verset 11 au début. « Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. » Le Christ est venu souverain sacrificateur des biens à venir. Ça, c'est la réalité qui nous attend. La fête des tabernacles est l'ombre des choses à venir. Hébreux 10, verset 1. « En effet, la loi, et ici, il parle de la loi des sacrifices, pas les 10 commandements. En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir... » Pourquoi est-ce que la loi des sacrifices était l'ombre des choses à venir? Parce que les sacrifices représentaient le vrai sacrifice qui allait venir, le sacrifice de Christ, l'agneau de Dieu. Alors, c'était dans ce sens-là l'ombre des choses à venir. En effet, la loi des sacrifices, qui possède une ombre des biens à venir, du vrai sacrifice qui allait venir, et non l'exacte représentation des choses, ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement à chaque année, amener les assistants à la perfection. Il y a seulement le sacrifice de Christ qui pouvait ouvrir le chemin de la perfection et de nous laver de notre culpabilité. Et c'est ce que le Christ a fait. 1 Pierre 5. 1 Pierre chapitre 5. Et nous allons lire le verset 10. « Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé, c'est votre cas, c'est mon cas, comme il nous appelle à célébrer ses fêtes maintenant, le Dieu de toute grâce qui vous a appelé, en Jésus-Christ, à sa gloire éternelle, ça c'est le but. Il veut que nous entrions dans la vie éternelle, dans la gloire éternelle. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ, à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps. Et ça, je ne vous apprends rien parce qu'on souffre tous d'une façon ou de l'autre et d'intensité différente selon les moments de notre vie. On passe par différentes souffrances. Et c'est permis. Dieu veut que ce soit ainsi. Il dit, ce Dieu-là, regardez bien, moi je l'ai souligné en vert parce que c'est une promesse. Ce Dieu-là vous perfectionnera lui-même. Vous n'êtes pas parfait, découragez-vous pas. Découragez-vous si vous ne faites pas ce qu'il faut, par exemple. Si vous ne luttez pas et ne demandez pas son aide. Il vous affermira, vous perfectionnera lui-même, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Ça, c'est le but. En toute fin, Dieu va nous rendre inébranlable. On sera capable, quand on sera transformé en être spirituel, de ne plus jamais manquer notre coup, de ne plus jamais pécher. Comme c'est le cas du Christ et comme c'est le cas de Dieu. Nous serons exactement comme eux deux. Même nature, même force, même vision, même attitude, même caractère. Notre vie actuellement et les souffrances que nous connaissons sont temporaires. Ça nous paraît long quand on les vit, mais elles sont temporaires. La vraie paix vient de Dieu. La vraie paix vient de Dieu. Vous savez, dans notre monde actuel, c'est triste à voir, mais les gens essaient de trouver le bonheur ou de trouver une paix d'esprit ou de trouver une certaine satisfaction dans n'importe quoi. Dans l'alcool, dans la drogue, dans l'argent, dans travailler sans arrêt pour ramasser de l'argent et ramasser des choses, dans les richesses, dans la gloire, mais ça mène nulle part. Vous voyez des artistes qui sont dans la gloire, qui sont connus, qui sont remplis d'argent, qui se suicident. Et beaucoup. Les joueurs de hockey, j'ai vu à un moment donné dans la région de Toronto, dans l'espace de 2-3 mois, il y a 2 ou 3 joueurs de hockey de la Ligue nationale qui se sont suicidés, des hommes riches. Ça remplissait pas le vide de leur vie. Le vrai but de la vie, c'est Dieu qui nous le donne. Et il nous fait connaître ce qui nous attend et il nous donne de connaître les vraies valeurs des choses. Je voyais ce matin dans les nouvelles, pour vous donner une idée de l'importance de l'utilisation de la cocaïne à Montréal, c'est que là, on en manque actuellement. Ça a l'air qu'ils sont en pénurie. Ils n'ont pas assez de cocaïne pour suffire à la demande à Montréal. Nos sociétés sont rendues comme ça, c'est partout et c'est accessible pour tout le monde. Et là, il y aura la marijuana en plus et tout ça. Et les gens s'endorment, s'engourdissent dans ces choses-là. Pourquoi? Parce qu'ils ne voient pas de but à l'existence. Ils essaient de s'endormir là-dedans. C'est triste, c'est malheureux. Ou dans les parties à plus finir, si vous voulez. C'est pas ça le but de la vie. Dieu nous l'a révélé, le but de la vie. Et il nous donne de pouvoir les goûter à la fête des tabernacles. Parce que je reviens à ça, on n'est pas appelé pour nous-mêmes, mais on est appelé pour rentrer dans son royaume si on est fidèle et aider les êtres humains à ce moment-là. Imaginez-vous le plaisir que vous allez avoir, et moi aussi, à guérir les gens, à les nourrir, à les encourager, à leur expliquer comment être heureux, à les protéger des situations dangereuses. Ce sont nos fonctions d'administrer des villes, des régions. La vraie paix vient de Dieu et quand on a le but de la vie, c'est plus précieux que tout. 2 Pierre chapitre 3, verset 10. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront et la terre avec ses œuvres qu'elle enferme sera consumée. Ça, c'est quelque chose qui s'en vient devant nous. Tout est temporaire, même la terre est temporaire. Toute la surface de la terre, au bout de l'histoire humaine, sera brûlée complètement après le 1000 ans, après le 100 ans, quand Dieu va créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Alors, c'est pour ça qu'il ne faut pas mettre notre cœur dans les choses temporaires, dans les choses physiques. Si on en a qui font notre bonheur, qui nous aident, tant mieux. Si on n'en a pas, demandons à Dieu d'avoir le courage de passer à travers. Mais Dieu a promis que tout concourt au bien de ceux qui pratiquent ses lois, de ceux qui l'aiment. Et quand vous allez aller à la fête des tabernacles, vous savez une chose? Vous allez être davantage que d'habitude en présence de Dieu. Parce que c'est sa fête! Comprenez-vous qu'il porte une attention spéciale à cette fête-là qui marque la délivrance prochaine de l'humanité et il ramasse ses enfants à ce moment-là ensemble. Comprenez-vous que Dieu va se manifester plus directement et plus précisément à cette occasion-là? Et quand vous allez aller à la fête, vous allez être davantage en sa présence. et vous allez pouvoir développer davantage de son amour et de votre amour envers les autres. 2 Corinthiens chapitre 4. Et on va lire les versets 17 et 18. On peut commencer au verset 16. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Quelle que soit votre situation actuellement, ne perdez pas courage. Mais par contre, restez attachés à celui qui peut vous amener à terme et qui a promis qu'il vous amènerait, qu'il vous affermirait, qu'il vous rendrait inébranlable si vous gardez votre petite main dans sa grande main. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre homme extérieur se détruit parce qu'on vieillit, les maladies sortent, les douleurs, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Si on parle à Dieu tous les jours en prière, si on se nourrit de sa parole. Car nos légères afflictions du moment, et celui qui écrit ça, c'est Paul. Paul qui dit nos légères afflictions du moment. Il avait été battu, fouetté, il avait été laissé pour mort, il avait été lapidé, il a fait naufrage, il a vécu des choses épouvantables alors qu'il était serviteur de Dieu. Dieu a permis qu'il en soit ainsi. Tout ça, il l'a préparé aussi. Et Paul dit ici, car nos légères afflictions du moment produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous ne regardons pas aux choses visibles. C'est celles qu'on voit, mais on ne met pas l'accent de nos yeux là-dessus. On ne regarde pas aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Verset 16, il est tellement beau. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Formidable. Et Dieu, dans tout ça, Dieu est en train de vous préparer pour l'éternité. C'est pas peu de choses, là. Comme Dieu était en train de préparer Paul à travers ce qu'il lui a permis de vivre pour la vie éternelle qui l'attendait et pour l'éternité. Dieu nous prépare pour l'éternité. Mais on a des choix à faire et on a des choix à maintenir. Je me rappelle quand j'ai pris l'engagement de mon baptême et je ne voulais jamais abandonner et je ne veux jamais abandonner encore. Et je demande à Dieu de m'aider. Parce que les risques sont toujours là pour tout le monde, que celui qui pense être debout prenne garde de tomber. Il faut toujours avoir la conscience qu'on peut tomber et qu'on doit faire plus que moins pour être sûr d'être proche de Dieu et d'avoir la force de paraître debout devant le Christ lorsqu'il viendra sur la terre. Ésaïe chapitre 40. Ésaïe chapitre 40. Ésaïe chapitre 40, on va lire le verset 26. Il parle de la grandeur de Dieu ici. Et c'est bon quand on regarde sa création et qu'on pense à lui. Je regardais les fleurs ce matin. À un moment donné, on est arrivé devant des maisons où il y avait une grande variété de fleurs. C'est des gens à leur retraite probablement qui aiment faire de l'horticulture. C'était superbe. La variété de couleurs, de hauteurs, de densité. Avec la lumière du soleil ce matin, c'était superbe. Mais quand on prend le temps de s'arrêter à ça, et je dis à mon épouse aussi, regarde les papillons blancs de l'automne. L'automne, il y a des papillons blancs qui survolent. Ça, c'est des papillons de fête encore. Et plus on est proche de Dieu, plus on peut associer ces choses-là. Et ça nous encourage dans ce sens-là. Dieu a fait sa création pour qu'on l'admire. Alors, lisons le verset 26 ici. « Levez vos yeux en haut et regardez. Qui a créé ces choses? Qui a fait marcher en ordre leur armée? » En parlant des planètes, des galaxies, du soleil, de la lune, des étoiles. « Il les appelle toutes par leur nom, chacune. Par son grand pouvoir et par sa force puissante, il n'en est pas une qui fasse défaut. » C'est quelque chose, là. Les êtres humains n'arrivent même pas à calculer le nombre de galaxies, encore moins le nombre d'étoiles. Et ici, il est mentionné que Dieu a donné un nom à chaque étoile de chacune de toutes les galaxies. Dieu les connaît toutes par leur nom. La même chose qu'il connaît les anges par leur nom, la même chose qu'il vous connaît par votre nom. Et d'ailleurs, si vous avez été baptisé, il a pris votre nom et il l'a inscrit dans le livre de la vie éternelle. Bien sûr, on doit faire tout ce qu'il faut pour que notre nom y reste. Mais votre nom est important. Dieu le connaît. Comme Dieu connaît le nom de tous vos ancêtres et de tous ceux qui ont vécu depuis Adam et Ève. Connais les noms. C'est pas un problème. Il n'y a pas à faire des efforts pour se rappeler. Ah, quelle génération? C'était qui, ça? Le grand blond, là, qui est le fils de... Vous savez, jamais Dieu va se poser des questions comme nous autres, on se pose des questions. Il connaît les noms de tous les humains, tous les anges, tous les astres. Verset 27. « Pourquoi dis-tu, Jacob, pourquoi dis-tu, Israël, ma destinée est cachée devant l'Éternel? Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. » Dieu dit, « Inquiétez-vous pas, je vous connais par votre nom, je sais par quoi vous passez. Ne le sais-tu pas, ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point, comme on sera quand on sera devenu spirituel. On ne peut sonder son intelligence. » On n'est pas capable de découvrir l'immensité de son intelligence, ni même de sa puissance. Et regardez ce qu'il dit après ça au verset 29. « Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. » Et c'est ce qui va se passer si vous allez à la fête, même si vous êtes fatigué physiquement, même si vous avez des soucis actuellement. Vous allez aller devant le Dieu Tout-Puissant qui veut vous régénérer spirituellement et vous fortifier physiquement. C'est pour ça que je vous disais tantôt, suivez sa directive de laisser en arrière ce qui est en arrière. Chaque jour suffit sa peine. Laissez en arrière tout ce qui vous inquiète, tout ce que vous avez à faire en revenant et tout ça. Concentrez-vous sur apprendre les voies de Dieu, lui être reconnaissant, le prier, lire sa parole, célébrer la fête avec les autres et servir. Et Dieu va vous donner la force spirituelle et physique dont vous avez besoin. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent, ils ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Vous savez, Dieu donne de la force aux faibles, humainement, physiquement, spirituellement, mentalement, émotivement. Certains vont arriver à la fête émotivement bouleversés pour diverses raisons peut-être, mais Dieu va donner la force qu'il faut pour être capable de laisser ça de côté et réjouir Dieu par leur façon de faire, et Dieu va les bénir abondamment. Ça veut dire qu'il faut avoir de la patience, et ça veut dire qu'il faut compter sur Dieu et compter sur ses promesses qui sont absolument certaines. Regardez le verset 6 et 8 du chapitre 40 d'Ésaïe, juste un peu avant, versets 6 à 8. Une voix dit, « Crie !» Et il répond, « Que crierai-je ? Toute chair est comme l'herbe, et tout son éclat comme la fleur des champs. L'herbe sèche, la fleur tombe, quand le vent de l'Éternel souffle dessus. Certainement, le peuple est comme l'herbe, et c'est ce qu'on est. On est temporaire, on est physique, limité. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Et c'est pour ça que je vous dis, il nous faut nous nourrir chaque jour, même quand on est chez nous, bien sûr, mais à la fête aussi, nous nourrir chaque jour de la parole de Dieu. Rappelez-vous Romains 8, verset 28. « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. » Psaume 147. Psaume 147. Nous allons lire les versets 4 à 8. Psaume 147, versets 4 à 8. On peut commencer au verset 3, et c'est ce qui va se passer dans certains cas chez ceux qui vont aller à la fête et qui arrivent peut-être avec des blessures émotives ou des choses difficiles dans leur cœur. Regardez le verset 2. « L'Éternel rebâtit Jérusalem, il rassemble les exilés d'Israël. » Verset 3. « Il guérit ceux qui ont le cœur brisé. » Il guérit ceux qui ont le cœur brisé. Et je sais, certains sont arrivés parfois à la fête, le cœur brisé, par ce qu'ils avaient vécu de difficultés avant dans leur famille ou personnellement. Et quand ils sont allés à la fête dans le but de glorifier Dieu, de s'approcher de lui, de faire sa volonté, Dieu a guéri, a mis du baume dans les cœurs brisés. Et ils pansent leurs blessures. Regardez le verset 4 maintenant. Ils comptent le nombre des étoiles. On revient là-dessus. Et il leur donne à toutes des noms. Ça montre sa puissance. C'est pourquoi il peut guérir les cœurs blessés. Notre Seigneur est grand, verset 5, puissant par sa force. Son intelligence n'a point de limite. Verset 6, l'Éternel soutient les malheureux. Il abaisse les méchants jusqu'à terre. Chantez à l'Éternel avec action de grâce. Célébrez notre Dieu avec la harpe. Ça, c'est formidable. Et à la fête aussi, faites-vous un devoir. Et ça change les choses, vous savez. Il faut se forcer pour le faire, mais quand c'est le temps de chanter les cantiques, même à l'Assemblée de sabbat, c'est des prières, les cantiques, de penser à ce qu'on chante et de chanter. Il y a des gens, parfois, qu'on ne voit presque pas bouger les lèvres. On se demande s'ils sont dans l'Assemblée. Et c'est triste de voir ces choses-là, parce que les cantiques, ce sont comme des prières qu'on adresse à Dieu ensemble, tout simplement. L'Éternel soutient les malheureux, il abaisse les méchants jusqu'à terre. Chantez à l'Éternel avec action de grâce. Célébrez notre Dieu avec la harpe. Formidable. Dieu soutient ses enfants. Dieu soutient toute l'existence de ce qui est là. Mais Dieu soutient de façon particulière ses enfants. Et il veut qu'on se réjouisse au sabbat, qu'on se réjouisse à la fête, parce que ça représente le but qu'il a en tête pour tous les êtres humains. Et on doit le remercier. Allez, Ésaïe 42 maintenant. Ésaïe 42, on n'est pas tellement loin. Ésaïe chapitre 42. Dieu nous rappelle souvent qu'il est le Créateur et que c'est lui qu'on doit adorer. Ésaïe 42, versets 5 et 6. Ainsi parle Dieu l'Éternel, qui a créé les cieux et qui les a déployés, qui a étendu la terre et ses productions, qui a donné la respiration à ceux qui la peuplent et le souffle à ceux qui marchent. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut. Vous pourriez mettre votre nom ici. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut, pour la vie éternelle. Je te prendrai par la main, je te garderai et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations. Ça s'adressait à qui? Dans le contexte, ça s'adressait au Christ, qui l'a établi pour être la lumière des nations. Mais ça s'adresse à vous aussi, parce que nous allons être les dirigeants sous le Christ, qui allons apporter la lumière aux nations aussi, sous la direction du Christ. C'est exactement la même chose. Le Christ est notre exemple en tout. Il est notre précurseur. Il va enseigner, mais nous allons enseigner sous lui. Donc, nous allons traiter alliance avec le peuple, dans le sens que nous allons expliquer au peuple l'alliance du Christ, sa mort pour nous, qu'il est possible d'être pardonné de toute notre vie passée et de recevoir le Saint-Esprit, un dépôt de la vie éternelle, et d'avoir droit à l'arbre de vie. On aura le plaisir, le bonheur d'annoncer ça aux êtres humains après le retour du Christ. Et à la fête des tabernacles, on aura le plaisir et la responsabilité d'être aussi la lumière dans notre façon de nous comporter envers les gens de l'extérieur, dans les restaurants, à l'hôtel et tout ça, en étant poli, en étant patient, en s'aidant entre nous les uns les autres, en étant un bon exemple, en gardant nous-mêmes nos chambres en ordre le plus possible, en étant gentil avec les femmes de chambre et tout ça. Ça, c'est notre responsabilité. Vous savez, notre appel n'a pas de prix. Et le but que Dieu a en tête pour nous est un but extraordinaire. Et il ne faut rien mettre devant Dieu. Dieu doit venir en premier. Bien sûr, on aura des tests, on aura des tentations, mais le succès est assuré vers le but final. Dieu nous a dit qu'il va nous conduire, qu'il va nous affermir pour l'éternité. Et Paul a dit à Timothée, combat le bon combat. Et même à la fête, on aura des petits combats aussi, pour exercer la patience, pour voir les besoins des autres. C'est comme ça, parce qu'on est encore des êtres humains, et c'est encore un terrain d'entraînement pour nous à la fête des tabernacles. Alors, allons-y dans cette optique-là, et vous allez voir, la fête sera différente. Demandez à Dieu de vous guider, de vous montrer les choses à faire, de vous aider à passer à travers vos faiblesses et à vraiment être un exemple de la nouvelle culture de Dieu. Continuons d'apprendre à craindre le grand Dieu qui nous donne de le servir et particulièrement à la belle fête des tabernacles qui s'en vient.